est en train de prendre place dans ce studio pour la Libre Antenne. Elle se prépare puisque la Libre Antenne, c'est à partir de 22h20, après le journal du soir, jusqu'à 1h du matin. Si vous souhaitez participer à la Libre Antenne, témoigner, raconter vos histoires à l'oreille de Valérie Darmon, vous appelez le 01 80 20 39 21 afin de joindre son équipe. 01 80 20 39 21. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Au carillon de repas, il est 22h et le journal du soir vous est présenté par Brandon Ouared. Bonsoir Brandon.
Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouared.
Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui 14 mesures en faveur des agriculteurs. Elles s'ajoutent aux 62 engagements déjà présentés par Gabriel Attal et visent à mettre fin à la crise agricole historique de cet hiver. Après les blocages d'étudiants pro-palestiniens à Sciences Po qui ont pris fin hier, le mouvement s'étend et gagne peu à peu d'autres instituts d'études politiques dans le sillage des universités américaines. À l'étranger, le Hamas a publié ce soir une vidéo montrant deux otages israéliens enlevés le 7 octobre. Le mouvement islamiste palestinien avait déjà diffusé mercredi une vidéo d'un autre otage israélien. Et le roi Charles III, de retour sur le devant de la scène, son état de santé est encourageant selon ses médecins. Enfin, en football et en Ligue 1, le PSG qui a son destin entre ses mains ce soir. En cas de victoire face au Havre, les hommes de Luis Enrique décrocheront le 12e titre de son histoire.
Europe 1.
Est-ce la fin définitive du mouvement de protestation des agriculteurs ? Après plusieurs mois de négociations, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé toute une série de mesures. L'exécutif veut désormais tourner la page de la crise agricole. Bonsoir Martin Lange. Concrètement, quelles sont les nouvelles mesures promises par le gouvernement aujourd'hui ?
Eh bien, il y en a exactement 14 des mesures concrètes que Gabriel Attal a défendues sur le terrain cet après-midi. En déplacement à Pirou, dans la Manche, le Premier ministre a voulu montrer aux agriculteurs que le gouvernement ne les a pas oubliés. Écoutez.
On est au contact des agriculteurs, on échange en permanence et surtout on travaille à des mesures concrètes pour nos agriculteurs. C'est pas parce que il y a eu un mouvement de crise avec une mobilisation très forte qu'on n'est plus dans ce temps-là que je vais lâcher le sujet, au contraire.
Ces mesures, elles concernent d'abord la trésorerie avec des aides financées par la Banque publique d'investissement à hauteur de 100 millions d'euros. Concrètement, pour les agriculteurs, ces aides prendront la forme de prêts pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Deuxième série de mesures, cette fois concernant l'eau. Le gouvernement s'engage à accélérer la construction de 100 projets de stockage ou d'irrigation pour qu'ils soient finalisés avant la fin de l'année. Par ailleurs, un plan d'accompagnement de 50 millions d'euros va être mis en place pour les agriculteurs de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Hérault, des départements particulièrement touchés par les événements climatiques. Enfin, dernière mesure à retenir, une réforme des retraites des agriculteurs appliquée dès 2026 avec une nouvelle méthode de calcul basée sur les 25 meilleures années de carrière. Là aussi, une des plus vieilles revendications des syndicats agricoles.
Et Martin, ça semble convenir aux principaux syndicats.
Oui, effectivement, dans la foulée, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, les deux principaux syndicats agricoles, ont publié un communiqué. Ils saluent un certain nombre d'avancées demandées depuis des années, mais promettent une extrême vigilance sur leur mise en œuvre. En revanche, du côté de la coordination rurale, troisième syndicat agricole, le compte n'y est toujours pas. Patrick Legras, membre du comité directeur.
Ça reste toujours très évasive. C'est pas ça qui va changer la vie d'un agriculteur qui n'arrive pas à mettre les bouts aujourd'hui. Ce qu'on souhaite, c'est la fin de la crise en réglant les problèmes. Mais là, c'est pas nous qui avons demandé ça. C'est pas ce qu'a demandé la coordination rurale.
D'ailleurs, sur X, cette même coordination rurale promet que la mobilisation commence.
Le président Emmanuel Macron se dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant notamment l'arme nucléaire. Déclaration dans le cadre d'un face aux lecteurs organisé par le groupe de presse EBRA. Depuis le Brexit et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2020, la France demeure le seul État membre à jouir de la dissuasion nucléaire. Encore un peu de patience pour les usagers de l'autoroute A13. La portion entre Paris et Vaucresson est toujours fermée à la circulation dans les deux sens depuis le 18 avril. La circulation ne reprendra pas le 1er mai. La partie fissurée à l'origine du tronçon aurait encore bougé. Aucune date de réouverture n'a pour l'instant été annoncée. Et sur les routes, les sapeurs-pompiers et les gendarmes ont dû intervenir à plusieurs reprises aujourd'hui dans le département de la Dordogne. La vigilance orange aux orages a été levée ce soir par Météo France comme dans les 7 autres départements. Mais en Dordogne, de nombreuses chutes d'arbres et des câbles électriques ont chuté. Selon les services d'Enedis, environ 9000 foyers étaient privés d'électricité en fin d'après-midi dans le département. À l'étranger, le roi Charles III de retour sur le devant de la scène dès la semaine prochaine. Annonce hier du palais de Buckingham. L'évolution de son état de santé est jugée très encourageante selon les médecins. Le souverain britannique se faisait des très discrets depuis l'annonce de son cancer le 22 mars dernier. Charles III se rendra mardi en compagnie de la reine Camilla dans un centre de traitement du cancer. Toujours à l'étranger, le Hamas a publié ce soir une vidéo montrant deux otages israéliens enlevés le 7 octobre. Le mouvement islamiste palestinien avait déjà diffusé mercredi une vidéo d'un autre otage israélien. Alors quel est l'objectif du Hamas avec cette vidéo? Écoutez ce qu'en pense le politologue David Rigoulet-Rose au micro de Martin Lange Europe.
Ça s'inscrit dans une stratégie de communication parce que c'est la fête juive de Pessah. Entre le 22 et le 30 avril, et donc c'est un moment évidemment très sensible. Et d'ailleurs, dans la vidéo, il évoque les fêtes de famille. Donc c'est une manière de mettre la pression, une pression psychologique à la fois sur les familles, évidemment, mais en sachant qu'il y aura une répercussion aussi des pressions des familles sur le gouvernement. Et d'ailleurs, dans la vidéo, l'otage fait mention du fait que le gouvernement israélien, et tout particulièrement Benjamin Netanyahou, aurait abandonné justement les otages. Donc il y a une stratégie évidemment de pression psychologique de la part du Hamas. En tout cas, c'est pas un hasard si ces vidéos sortent maintenant.
Des propos recueillis par Martin Lange pour Europe 1. Après les blocages d'étudiants pro-palestiniens à Sciences Po largement entretenus par la France insoumise, le mouvement s'étend puisque d'autres instituts d'études politiques comme celui de Reims prennent en ce moment la relève, Mayalène Trémollet.
Oui, c'est sous les encouragements des élus LFI que les étudiants se mobilisent. La candidate insoumise aux élections européennes, Rima Hassan, militante pro-palestinienne, appelait aujourd'hui sur ses réseaux sociaux à une mobilisation étudiante réunissant tous les IEP de France. Des blocages qui suscitent l'indignation du gouvernement. Le Premier ministre Gabriel Attal affirme ainsi aujourd'hui que la vigilance sera totale dans les jours à venir.
J'ai eu l'occasion, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, de me rendre à Sciences Po pour dénoncer les dérives d'une minorité agissante et dangereuse qui veut imposer à la majorité des étudiants, aux enseignants, une idéologie venue d'outre-Atlantique, essayer de perturber le bon fonctionnement de cette école. Nous ne transigerons jamais sur le respect des valeurs de la République.
De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, visait hier Rima Hassan, déclarant que le cynisme électoral n'excusait pas tout. Il faut dire que dans le cadre des élections européennes, ces révoltes font le jeu de la France insoumise, qui cherche à transformer dans les universités la colère militante en bulletin de vote. Un calcul électoral qui s'inscrit dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, alors que les insoumis ont fait de la cause palestinienne le sujet principal de leur campagne européenne.
Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et des blocages qui font également réagir les oppositions. À droite, Éric Ciotti dénonce une soumission insupportable de la part de Sciences Po. Alors voici maintenant l'interview d'Europe 1 soir week-end. Jacques Serey a reçu la présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Shannon Seban.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente Renaissance en Seine-Saint-Denis. Vous êtes jeune, vous avez 28 ans. En tant que soutien d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu ces images d'étudiants de Sciences Po Paris bloqués hier par ces militants pro-palestiniens ?
Profondément choqué, bien évidemment, profondément préoccupé par ailleurs, parce que je trouve qu'on est aujourd'hui en train de tomber dans une banalisation de la violence qui est alimentée par une certaine partie de la classe politique. Je pense bien évidemment, sans aucune ambiguïté et pour bien nommer les choses, à la France insoumise. Et je vous le dis ici en connaissance de cause, je suis élue à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, présidente de Renaissance dans ce même département. J'ai affaire quotidiennement aux députés de la NUPES et à 9 députés sur 12 dans le département qui sont issus de la France insoumise. Aujourd'hui, je m'interroge. Quand je vois les images à Sciences Po hier, je m'interroge sur la stratégie qui est celle de la France insoumise. Est-ce que c'est de faire de la politique pour porter un projet concret, avec des propositions pour la France, avec des propositions pour l'Europe, ou est-ce que l'objectif c'est de créer le chaos dans le pays ? Je crois que nous avons tous vu hier, deux députés de Seine-Saint-Denis, M. Thomas Porte et M. Jérôme Le Gavre, arboraient une écharpe tricolore et s'interposaient entre les policiers et les manifestants lors du mouvement qui a été hier et qui s'est déroulé à Sciences Po. Mais de quoi parle-t-on ?
L'écharpe tricolore. Vous pensez plutôt pour la deuxième option, vous pensez qu'ils cherchent à semer le chaos ? C'est ça dont vous accusez ?
Mais bien évidemment, et moi je n'ai de cesse que de le rappeler, la France insoumise aujourd'hui ne souhaite pas accéder au pouvoir. Ce qu'ils souhaitent, c'est justement jouer le contre-pouvoir et être systématiquement dans la contestation, dans le refus de la démocratie, dans le scandale permanent. Mais où sont les propositions? Prenez Rima Hassan. On devait débattre ensemble, elle a refusé d'ailleurs. Et je le déplore. Elle est candidate aux élections européennes. Elle a décidé de faire du conflit israélo-palestinien le cœur de sa campagne.
Justement,
j'attends ses propositions pour l'Europe.
Elle lance un appel, Rima Hassan, candidate insoumise, vous le soulignez, qui lance un appel aujourd'hui sur les réseaux sociaux à la mobilisation des étudiants. Est-ce que vous craignez aujourd'hui que le mouvement s'étende?
Mais non seulement elle appelle à la mobilisation, mais je ne sais pas si vous avez vu hier son post sur X, elle appelle au soulèvement. Elle appelle au soulèvement. Mais de quoi parle-t-on? Mais réveillons-nous, c'est extrêmement grave aujourd'hui ce à quoi on assiste. Moi je l'ai vu lors des émeutes en Seine-Saint-Denis en juillet dernier. Pareil, aucune condamnation des violences envers les policiers, envers nos forces de l'ordre. Seulement un appel au chaos. Mais de quoi parle-t-on? Réveillons-nous. Donc oui, effectivement, moi je suis inquiète et particulièrement préoccupée de cette stratégie de la France insoumise qui contribue à alimenter un climat de haine dans notre pays, alors même que dans le même temps, ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir poser les bases d'un climat apaisé et serein sur un sujet aussi grave que le conflit israélo-palestinien.
Vous êtes inquiète, mais en même temps, entre guillemets, vous êtes au pouvoir, vous êtes fait partie du camp présidentiel. Quelle peut être la réponse aujourd'hui face de la part de l'exécutif?
Eh bien, je crois que je vais ici reprendre les mots de notre Premier ministre Gabriel Attal cet après-midi, auquel je souscris particulièrement. Oui, il faut être particulièrement vigilant à ce que, dans nos universités en particulier, qui sont des lieux de savoir et qui doivent rester des bastions de connaissances, que les conditions d'un débat serein et apaisé soient assurées. Et le Premier ministre l'a dit cet après-midi, il sera particulièrement vigilant à ce que, quand débat il doit y avoir, les conditions sereines soient apaisées.
Justement, vous parlez du Premier ministre, je vous propose de l'écouter, c'était ce matin en Normandie, dans la Manche.
À Sciences Po, comme dans nos universités, il y aura toujours du débat. Et des élèves et des étudiants qui voudront débattre. Et pour qu'il y ait du débat, il faut que les règles soient respectées, que le respect des positions des uns et des autres soit permanent. C'est pas ce qu'on a vu hier. Hier, on a vu le spectacle navrant, choquant, d'une minorité, agitée effectivement par des forces politiques, et notamment la France insoumise, chercher à perturber le fonctionnement de cette institution. Et je le dis, je ne l'accepterai pas. Et donc la mobilisation sera totale encore dans les semaines et les mois qui viennent.
Alors il y a les mots forts du Premier ministre Gabriel Attal. Et dans le même temps, il y a ces mots écrits par la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui salue cette décision de la direction de Sciences Po, salue cet accord, entre guillemets, du fait que la direction a trouvé un accord, qu'elle a accepté leurs conditions, en cessant notamment les poursuites disciplinaires envers les étudiants pro-palestiniens. Du point de vue de la droite des Républicains, la direction de Sciences Po se couche. Et donc, de leur point de vue, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui dépend de Gabriel Attal, salue une décision où la direction se couche. Est-ce que cela dure en même temps entre un Premier ministre qui a une parole forte et ferme et une ministre qui salue une décision un peu ambiguë de la direction de Sciences Po?
Je crois qu'il y a deux choses ici complètement différentes. Et le Premier ministre l'a rappelé, et d'ailleurs même Sylvie Retailleau elle-même a employé le terme de « les lignes rouges ont été franchies ». Aujourd'hui, bien évidemment, et je vous le dis sans aucune ambiguïté, nos universités doivent pouvoir être des lieux dans lesquels on débat, on échange, on discute, on confronte des points de vue différents. C'est extrêmement important de garder cela. Mais maintenant, quand vous avez des débats qui deviennent extrêmement violents, comme on a pu le voir hier, parce que moi, ce que j'ai vu, c'était des images violentes, c'est pas possible. Donc, c'est pas qu'il y a un en même temps, c'est qu'on doit effectivement à la fois jouer sur deux jambes, trouver effectivement le juste équilibre entre le maintien du pluralisme, le maintien de la liberté d'expression au sein de nos universités, à condition qu'il n'y ait pas d'appel à la haine, qui soit d'ailleurs implicite ou explicite.
Et donc, vous saluez, vous aussi, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions contre ces étudiants perturbateurs?
Moi, je n'ai pas à commenter, si vous voulez, à m'immiscer dans les décisions qui sont celles d'une université comme Sciences Po.
Mais pas de sanctions, est-ce que vous trouvez que c'est raccord avec les mots du Premier ministre?
On verra, parce que je crois qu'il y a eu en tout cas dans les déclarations qui ont été celles de Sciences Po, il y a des réunions qui doivent se tenir avec les étudiants et un accord devra être trouvé. On verra à ce moment-là ce qu'il en ressortira. Moi, en tout cas, ce que je crois, c'est que l'université doit aussi prendre ses responsabilités et je salue la décision qui a été celle du président de l'Université de Lille il y a quelques jours en annulant cette fameuse conférence sur la Palestine qui devait être menée par M. Mélenchon et Mme Hassan. Quand on voit effectivement qu'on a une conférence qui est organisée par une association au sein de ces murs, au sein des murs d'une université qui pourrait mettre en péril la diffusion du savoir et de la connaissance, oui, moi je trouve cela effectivement tout à fait responsable que de l'annuler.
Alors tout cela survient en pleine campagne des européennes. Nous sommes à 6 semaines du scrutin. Valérie Rayer est en déplacement ce week-end à La Réunion. Les derniers sondages ne sont pas très très bons pour elle. Le Rassemblement national continue de creuser l'écart. Selon notre dernier sondage OpinionWay pour Europe 1, CNews, JDD, 30% d'intention de vote pour le RN. C'est 12 points de plus que la liste Renaissance de la majorité présidentielle. Vous êtes aussi une militante, vous tractez, vous collez des affiches. Est-ce que vous constater, d'une certaine manière, cette défiance face à Valérie Rayer sur le terrain?
Non, absolument pas, et je vous le dis en connaissance de cause, j'étais pas plus tard que ce matin à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, justement, pour tracter et porter le projet de notre liste Besoin d'Europe avec les militants de Renaissance Seine-Saint-Denis et de la majorité présidentielle de façon très élargie. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que véritablement, les Françaises et les Français se rendent compte que le 9 juin prochain dans l'isoloir, ce qui se jouera, c'est non seulement l'avenir de l'Europe et l'avenir de la construction européenne, mais aussi l'avenir de notre pays. Parce que nous sommes à un moment charnière. Et c'est tout l'objet du discours qui a été celui du président de la République à la Sorbonne, de dire que oui, l'Europe est mortelle. Oui, l'Europe peut vaciller si le 9 juin prochain, nous ne choisissons pas de faire un choix qui est très clair, qui est le choix d'une liste pro-européenne qui défend des valeurs qui nous permettront de peser face aux grandes puissances.
Vous ne croyez pas au sondage ?
C'est pas que je ne crois pas au sondage, c'est que je crois que le programme va sortir très prochainement, la liste sortira très prochainement, et je crois qu'on a ici une candidate qui connaît ses sujets, qui est une candidate pro-européenne, avec un président de la République pro-européen, et nous avons aujourd'hui un bilan à défendre, un bilan extrêmement fort, et un bilan que les Français sur le terrain prennent avec beaucoup de sérieux, et ils savent qu'aujourd'hui on a un moment de bascule. Donc je crois en l'esprit de responsabilité des Françaises et des Français.
Europe 1 Nuit Weekend. Brandon Ouarrett.
Shannon Seban, la présidente Renaissance de Seine-Saint-Denis, au micro de Jacques Seret pour Europe 1 Soir Weekend. J-11 avant l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Elle a quitté ce matin le port du Pirée à Athènes à bord du mythique trois-mâts Belém. À son arrivée au Vieux-Port, 150 000 personnes seront là pour l'accueillir. Et c'est le nageur Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, qui sera le premier à porter la flamme olympique à son arrivée sur le sol français. En sport et en rugby, 5e et dernière journée du tournoi Destination féminin entre la France et l'Angleterre, une finale, et les Françaises ont été largement battues 42-21. C'est le 6e titre consécutif pour les Wild Roses dans le tournoi des 6 nations. En tennis, la Française Alizé Cornet, 34 ans, a annoncé la fin de sa carrière. Elle s'est entretenue en exclusivité ce soir chez nos confrères de Canal+.
Je vais jouer mon dernier Roland-Garros dans un mois, tout pile, et je prendrai ma retraite dans la foulée. Donc voilà, ça me fait bizarre de dire ces mots à voix haute, ça fait longtemps que j'y pense, mais de l'annoncer officiellement, ça fait un petit quelque chose. C'est le bon moment parce que c'est le résultat d'un long cheminement qui a duré plus de 2 ans. Et là, ces derniers mois, ma pensée s'est précisée et je sens que c'est l'heure, tout simplement. Mon classement a un peu baissé, ça m'a aussi permis de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ma carrière. Donc forcément, j'ai pas envie d'être poussée vers la sortie, j'ai aussi envie de décider de ma sortie. Et voilà, là, je sens que j'ai un peu moins à donner en termes d'envie. Et pour moi, c'est le bon moment de dire au revoir au tennis.
Au palmarès d'Alizé Cornet figure 6 titres en simple et la Fed Cup en 2019. Le sport, c'est aussi le football. La 31e journée de Ligue 1 se poursuit ce soir et le PSG reçoit en ce moment le club normand du Havre. 57e minute de jeu et les Parisiens sont menés 2-1. Alors si Paris s'impose, c'est le match du possible 12e titre de champion de France, Cédric Chasseur.
Oui, mais pour l'instant, il va falloir attendre, hein, parce que sous la pluie diluvienne qui tombe sur le Parc des Princes, le PSG, pour l'instant, voit son titre retardé, son sacre retardé, parce que, vous l'avez dit, le PSG est mené 2-1 par cette surprenante équipe havraise, mais on ne reconnaît pas du tout, hein, cette formation parisienne. Cueillie à froid, 19e minute, le but de Christopher Opéry pour l'ouverture du score des Normands. Égalisation 10 minutes plus tard de Bradley Barcola. On se dit que là, le Paris Saint-Germain va repartir de l'avant, et puis c'est un ancien Marseillais, André Ayou, qui est venu donner un deuxième coup de clim un peu avant la mi-temps. 2-1. Luis Enrique est assez mécontent de l'implication de ses joueurs et notamment de l'intensité mise dans ce match. A fait 3 changements à la mi-temps et parmi eux Kylian Mbappé, mais pour l'instant ça ne mène à rien du côté du PSG qui tombe toujours mené 2-1, et on attend pour l'instant une décision arbitrale, peut-être en faveur du Havre, puisque la VAR est actuellement appelée à décider d'une action litigieuse dans la surface parisienne. Il pourrait même y y avoir un pénalty pour le Havre dans quelques instants. Vous voyez que pour l'instant, les choses ne vont pas très très bien pour le PSG, mené 2-1 par le Havre.
Cédric Chasseur en direct du Parc des Princes pour Europe 1. Après le sport, la météo avec vous, Michael Poteau. Le temps est inversé par rapport à aujourd'hui. Expliquez-nous.
Eh bien écoutez, c'est simple. Si aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pluie à l'ouest, laissant toute la partie est un peu tranquille, demain, on inverse la tendance. Alors dans les faits, demain matin, il va pleuvoir du Languedoc jusqu'aux frontières de l'Est avec des précipitations plus marquées proches de la Méditerranée, des pluies plus modérées sur les côtes de la Manche et de rares averses des Pays de la Loire jusqu'au Bordelais et entre les deux, des Pyrénées jusqu'aux Ardennes, là, le temps sera plus sec. Dans l'après-midi, finalement très peu de changements, excepté des averses plus fréquentes dans les Pyrénées et parfois plus orageuses dans le sud Normandie et jusqu'en Île-de-France. Notons quand même la bonne nouvelle, un soleil bien généreux pour la région niçoise et pour la Corse. Les températures le matin de 5 à 13 degrés, 5 à Tarbes et Brest, 8 à Bordeaux, 9 à Épinal, 10 à Amiens, 11 à Lyon et jusqu'à 13 degrés pour Grenoble, Béziers et Ajaccio. Et dans l'après-midi de 12 à 26 degrés, 12 à Besançon et Calais, 14 à Aurillac, 15 à Clermont-Ferrand, 16 à Biarritz, 17 à Poitiers, Tours et Paris, 19 à Marseille et jusqu'à 26 degrés les Vénards pour Ajaccio.
22h20. En ce milieu de soirée, vous faites la route avec Valérie Darmon pour la Libre Antenne sur Europe 1. Et pour joindre Valérie, vous pouvez l'appeler au 01 80 20 39 21. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Brandon et merci. On vous retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'information. À tout à l'heure.
Europe 1, 22h, 1h.
La Libre Antenne.
D'Armon.
Tous et bienvenue dans cette nouvelle Libre Antenne sur Europe 1. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h. Juliette et Nicolas sont à mes côtés pour prendre vos appels au standard au 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous joindre, vous le savez, par SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, par l'adresse libreantenne@europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission. À la réalisation, nous retrouvons, comme d'habitude, Benoît Levieux-Noir. La citation du jour est de Taillard de Chardin. Ce n'est ni d'un tête-à-tête, ni d'un corps-à-corps dont nous avons besoin, mais d'un cœur-à-cœur. La Libre Antenne de ce samedi, c'est parti.
En toute confiance, appelez maintenant Valérie Darmon au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
Bonsoir Maryse.
Bonsoir Valérie.
Merci d'être avec nous. J'adore, vous me souriez. Voilà, vous êtes ma première auditrice et vous me souriez.
Merci.
J'aime entendre votre sourire dans votre voix.
Merci.
Que puis-je faire pour vous ? Dites-moi, de quoi voulez-vous nous parler ?
Mais en fait, j'ai appelé parce que j'ai écouté votre émission hier soir, en fait, plus Hélène.
Oui, oui.
Et je voulais dire, franchement, Europe 1, vous êtes géniaux. C'est pas de la langue de voix, c'est vous êtes génial parce que franchement, vous remontez le moral, ça m'a vraiment touchée. J'ai écouté jusqu'à la fin et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis ressentie dans la période du Covid parce que je suis aide-soignante en RIA.
Oui.
Et lorsqu'elle a parlé, ça m'a fait revenir en arrière en 2020, à la période du Covid, et que on était dans le désespoir, on travaillait, on faisait des heures sup pendant toute une période. Et c'était très difficile, on a eu des patients comme Hélène, et ça m'a vraiment émue, parce que en fait, en rayant, on avait des patients, on avait toute une grosse pathologie, parce que je suis dans une réa qui est habilitée dans l'hémoptysie, les pathologies pulmonaires, donc nous, on avait pratiquement plus de 40 patients de Covid. Donc, on avait une charge immense.
Vous avez toujours, si je peux me permettre, Maryse, parce que moi, oui. Je rends toujours hommage dans la Libre Antenne au personnel soignant, les aides-soignantes, les infirmières, les brancardiers, enfin vraiment tout ce monde qui fait que nous gardons notre santé le mieux possible. Vous êtes toujours débordée de toute façon. Vous avez toujours beaucoup de travail. La charge de travail est toujours monumentale, de plus en plus.
Absolument, absolument, parce que nous avons des patients qui viennent de d'autres GHU, parce que quelquefois, bon, certains RIA sont un petit peu débordés, justement. Donc, pendant cette période, on avait des transferts dans d'autres départements, et c'est immense. Mais merci, parce que, franchement, pendant le Covid, on marchait sous nos rotules. On n'arrivait pas, c'était super dur. Et je me suis, en entendant Hélène, je me suis dit, mais moi aussi, je me suis sentie, j'ai eu le Covid aussi. J'ai attrapé le Covid, je ne savais même pas, j'ai perdu l'odorat, j'ai perdu pas mal l'odorat.
Vous avez quel âge, Maryse ? Vous avez quel âge ?
J'ai 55 ans.
Mais vous réfléchissez avant de me répondre, j'aime bien.
Non, je réfléchis pas.
Ça veut dire que dans votre tête, vous ne les avez pas, en fait.
Non, je ne réfléchis pas, parce que quand on dépasse 40 ans, on n'ose pas dire...
Ah, ok, mais là on a la radio, donc c'est pas très grave, il n'y a pas tellement d'enjeux. Oui. Non, je vous posais la question pour savoir à quel moment vous aviez eu le Covid, voilà, dans quelle tranche d'âge vous vous situiez quand vous avez eu le Covid.
Ah oui, j'avais dépassé 50 ans, mais je me suis dit, peut-être parce que j'avais pas de pathologie que j'ai pu résister, mais j'ai eu le Covid, mais vraiment grave. Et pourtant, la veille, j'avais pris le vaccin, et le lendemain, j'étais clouée au lit. Je ne pouvais même plus qu'au travail, ils m'ont dit « rentre chez toi, n'en reste pas, rentre chez toi parce que tu ne peux plus ». Et moi j'insistais « mais non ». Et en fait, c'est quand si on n'est pas dans le domaine, surtout en réa, c'est là qu'on a eu vraiment le cœur, quoi.
Bah bien sûr, surtout en maladie pulmonaire en plus. Là, vous étiez
Mais justement, parce qu'en fait, Maria, nous sommes habilités en pathologie pulmonaire. Tout ce qui est poumon, tout ce qui est les voies pulmonaires, et bien, surtout l'hémoptysie, tout ce qui est en relation avec les poumons. Eh bien non, on avait toute cette charge, cette masse, les patients curarisés, coma, on avait tout, c'était, quelquefois on se retrouvait, parce que surtout qu'il y avait des collègues qui ne pouvaient pas être là, donc on se retrouvait, je vous assure, on se retrouvait quelquefois deux soignants avec dix patients, parce que notre RIA, dans les règles normales, on a 20 patients de RIA. On a 20 patients. 20 patients pour 5 aides-soignants, 4 infirmières. Mais pendant le Covid, l'effectif a été réduit. On se retrouvait à 2 soignants, 10 patients pour un soignant. Je vous assure, c'était horrible. On a dû faire des appels vers l'extérieur et tout.
Et Maryse, l'effectif a été réduit parce qu'il y avait beaucoup de personnel qui était touché par le Covid, c'est ça ?
Exactement, ouais, exactement.
Fait, et je vous dis que moi, j'ai... Et vous l'avez eu, vous, dis... de manière forte, c'est ce que vous nous disiez.
Exactement, mais moi, j'ai eu le Covid long. Je veux vous dire que je ne savais même pas. Et en 2022, j'ai eu une fatigue. 2022, n'est pas, c'est tout près, c'est tout récent. J'ai eu une fracture de fatigue. Je ne pouvais même plus rester debout. Ce qui veut dire que là, je suis obligée de faire une reconversion pour trouver... Enfin, une reconversion, c'est-à-dire trouver un autre poste, que je ne puisse pas rester debout, parce que je reste debout, mais pas très longtemps. Parce que pendant le Covid, on était tout le temps, continuellement, debout. On avait les transferts pour scanner, parce que les patients du Covid, c'était scanner, c'était IRM. Et c'était on continue. Et le témoignage d'Hélène, je me suis replongée, j'ai eu une je me suis dit, mon Dieu, j'ai l'impression que je revois les patientes qui étaient au fauteuil. J'ai été au fauteuil un moment, mais comme on dit, avec la foi, j'ai pu remonter tout ça. J'ai pu remonter tout ça, mais quand même, on garde quand même...
Des séquelles, et surtout un traumatisme.
Des séquelles de fatigue,
oui. Un peu un traumatisme, même au niveau de la fatigue, j'ai l'impression, quand vous nous relatez ce passage.
Absolument, c'est vraiment, c'est le point principal, c'est la fatigue. La fatigue, moi qui étais quelqu'un de très énergique, je portais, je vous assure, je portais des tonnes de courses toute seule, des sacs à dos. Mais là maintenant, on ne peut pas, bon, ça revient, mais il y a un moment, je ne pouvais même pas porter un petit sac de courses. Il fallait justement, en plus pendant le Covid, on était obligé de se faire livrer, on était obligé de se faire livrer près de nos repas. Mais c'était, en fait, je ne sais pas... J'ai l'impression qu'au niveau, bon, je dirais pas que je vais pas les mettre quand même le mal à dos, le gouvernement, mais en fait, il fallait que certains soient, venir à l'inconnu et regarder comment on subissait, comment les soignants subissaient dans ces périodes. Et je crois qu'ils auraient dû venir en tant que patron inconnu, hein, et assister. Et être à notre place, et voilà. C'est pas, je le reproche
vous
pas, mais bon,
vous
c'est un témoignage.
Vous travaillez en CHU?
Non, je travaille dans CHU, groupe hospitalier, j'allais dire le nom de l'hôpital, je peux dire ou pas non?
Bah oui, allez-y, si vous, oui, il n'y a pas de problème.
Attenon, je suis Attenon.
Ah oui, oui, d'accord. Grand hôpital parisien, oui, grand hôpital parisien.
Exactement, et nous, nous sommes habilités dans l'hémoptysie, tout ce qui est problème hémoptysie, problème digestif, et donc tous les patients, on était 20 patients en rien, et pour le Covid, on a agrandi certains services, on a élargi les services, on avait presque plus de 40 patients de rien. 45 à peu près.
De toute façon, tous les hôpitaux étaient engorgés.
Oui.
De toute façon.
Tous les hôpitaux, c'était incroyable.
Oui, on s'est rendu compte à quel point on avait besoin de vous aussi. Hein. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit que Europe 1 était une station géniale pour cette solidarité, oui, hein, qu'on a mis en place autour d'Hélène. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vous aussi, hein, auditrice, auditeur, qui êtes géniaux. Non, mais c'est important parce que sans vous, l'émission n'est rien. Et c'est important de enfin moi je me dois de vous le dire et de le répéter.
L'émission n'est rien, mais je vous assure que Europe 1, les radios, je dirais que les radios, mais surtout Europe 1, je ne sais pas si vous êtes formés, mais quand on vous écoute, on se sent bien.
C'est gentil. Oui, je suis formée.
Mais je vous assure, je vous écoute, vous, Valérie, Olivier, je vous écoute tous, même, chaque fois je dis, j'entends l'annonce, comment il s'appelle, Yaya
Sana? Non, je sais pas. Sana Blanger, Roland Pérez.
J'entends tout vos, même la journée, hein, comme Pascal Praud, que j'adore. Oui,
voilà, c'est ce que j'allais dire. Pascal Praud aussi, qui dit que voilà, c'est vous qui comptez. Voilà.
Ça, j'adore. Ce qui compte, c'est vous.
Mais oui, c'est vrai.
Ça me fait
bien
toujours
sûr,
rire.
Ce qui compte, c'est vous.
C'est incroyable.
Mais oui,
il
bien
a trouvé
sûr
la bonne formule, parce que franchement... Et je vous assure que vous remontez vraiment le moral et ça fait superbement bien parce que vraiment pendant le Covid, je pleurais, j'avais des larmes, j'arrivais pas. Et en mettant la radio, mais je la laisse allumer et là je l'éteins parce que je vous entends, mais dès que je vais raccrocher, je la rallume. Hein.
Bah vous faites bien, nous on est ravis en tout cas. On le retrouve dans nos audiences et on est très 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 contents, voilà. On vous dit tous, hein, la famille Europe 1 vous dit merci. Et pour Hélène, l'émission avait vraiment du sens aussi. C'est ça.
Oh là là,
surtout,
oh là là. Moi, je souhaite participer à sa cagnotte parce que franchement, Hélène, elle m'a pris dans le cœur là. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourtant.
Donc, Maryse, on se permettra de donner vos coordonnées à Hélène, comme on l'a fait hier, oui, pour les nombreux auditeurs qui nous ont laissé des messages au 739-21. J'en profite pour le dire aussi à Maddy, qui nous avait laissé un message sur le répondeur. Donc, on va se permettre, si elle est OK, de donner son contact à Hélène. Et pour tous les autres auditeurs qui nous écoutent ce soir,
mais vous
même
savez
chose.
Que Hélène m'a déjà contactée, je peux le dire ou pas?
Ah, très bien. Alors, dites-nous,
oui,
racontez-nous,
vous...
bien sûr.
Eh bien, en fait, Hélène, elle m'a contactée, on a discuté, c'est une personne
super gentille, agréable. Oh là là, elle parle très bien, elle a une éloquence superbe. En fait, quand je dis une éloquence, mais c'est, on ressent dans pourtant je la connais pas, c'est une inconnue, je n'ai jamais vue, mais sa façon de s'exprimer, on sent c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin et elle est honnête. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'est sorti, je me suis dit c'est pas possible, cette personne c'est, elle a une bonne foi, on sent que tout ce qu'elle dit, et en plus elle demandait pas d'aide, elle demandait, quand je dis d'aide financière, hein, elle demandait vraiment de trouver une petite place, un truc, et moi quand j'ai vu qu'elle habitait à Valenciennes, j'ai dit mais je peux même pas, c'est trop loin, moi je suis pas de, je suis dans le 93, donc voilà quoi. Et voilà. Non, mais il n'y a pas seulement Hélène, hein. Il y a beaucoup d'autres personnes.
Beaucoup
hein,
de mobilisation, beaucoup. Oui. Patricia, ah, Jean-Robert, oui, vraiment, vraiment un grand merci
vraiment,
à tout le monde.
Vous savez quoi, juste parler comme ça avec les gens, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux, mais vous êtes géniaux.
Bah,
je n'ai jamais parlé comme ça à une radio. Je n'ai jamais parlé, mais vous êtes vraiment géniaux. On a l'impression de ne pas se sentir seul. De ne pas être seule. Je vais vous dire un truc, j'ai une séparation justement en 2020, ben justement par rapport au Covid, parce que voilà, en fait, voilà.
Votre compagnon vous a laissé pendant le Covid.
Exactement. Je vous dis que pendant le Covid.
Pendant
il
le Covid
y a eu
et pendant que vous et pendant que vous aviez le Covid aussi ou pas.
Et pendant
ce sera encore plus
que,
classe.
Oui.
Enfin, je le dis de manière
exactement,
évidemment humoristique.
Exactement.
Hein.
Pendant que j'avais le Covid, pendant que je travaillais, non, en fait, non, quand il, non, j'avais pas encore le Covid, c'est après. C'est après, mais j'avais les symptômes. Je pense que je l'avais, hein, mais on était toujours dans le déni. Hein. On se dit bon, c'est la fatigue et tout. Et bon, lorsque j'ai pris le vaccin, ben voilà, ça c'est parce que le vaccin du Covid, en fait, quand on a tous les symptômes qui se déclenchent, c'est quand on a déjà le virus à l'intérieur. Et donc, le vaccin active encore plus.
Ben bah oui, puisque c'est le principe de déclencher l'immunité hein, contre la source du mal. Hein. Voilà, c'est ça. Donc,
exactement.
Quand on l'a déjà,
moi, j'ai eu tous les douleurs. Hein. J'ai eu tous les douleurs. Je vais vous dire, un moment, heureusement qu'il y avait ma fille, j'avais l'esprit de me mettre, excusez-moi, hein, de me jeter par la fenêtre. Je ne veux pas le faire, mais vous avez tellement les douleurs. Je marchais à quatre pattes pour aller aux toilettes. C'est pour vous dire. J'ai eu vraiment le Covid fort. Et après, bon, avec ça s'est résorbé, ben, ça a été, mais en fait, je l'ai fait long parce que en 2022, bon, j'ai eu un épuisement parce que je travaillais de nuit. Bon, par la suite, je suis passée deux jours, mais 12 heures en rien. C'est vrai que c'est... pas évident.
Oui, la charge mentale est très très lourde et sur une immunité qui était déjà affaiblie, et bien évidemment que lui, il a galopé à l'intérieur de vous, en fait. Hein, c'est ça. Et pour vous remettre, c'est plus long. C'est logique. C'est quand
absolument.
On pousse le bouchon un petit peu trop loin.
Et pendant le Covid, nous avons fait plus de... C'est la raison pour laquelle nous sommes passés à 4 jours par semaine, parce qu'on faisait plus de... Quelquefois, on travaillait du lundi au vendredi, hein. Et s'il n'y avait pas le collègue, on faisait des heures sup. Hein. Des heures sup, voilà quoi. Mais c'était immense. Hein.
Souvenons-nous qu'on vous applaudissait au balcon et aux fenêtres. Hein. C'était
absolument.
Important, c'était un joli moment de solidarité là aussi.
Oui, oui, oui. On regardait, nous, dès qu'il était 20h, on voyait juste en face de l'hôpital des voisins, enfin les gens en face qui nous applaudissaient, qui nous disaient merci. Voilà, bon, ça c'est... Mais on a été...
Alors,
on a été applaudis.
Alors, revenons à vous, Maryse. Donc, votre compagnon de l'époque... décide de vous quitter pendant cette période Covid. Comme...
En fait, c'est mon époux, mon mari, mais on s'est séparés, Et bien, il a décidé, juste à la période, je dis, le Covid a commencé en 2020, ben, monsieur a décidé, ben, en décembre 2020, de me déposer une demande de divorce. Parce que, en fait, nous sommes pas, bon, c'est pas vraiment le thème, hein, nous sommes pas de la même religion, mais comme je lui disais qu'il fallait pas qu'il parte, il a fait le titu, il m'a dit, bon, ben, si tu veux pas que je parte en Afrique, eh ben, on divorce. Voilà. C'était ça.
Ah, c'était et du moi, chantage. Si tu veux pas que je parte, je divorce. Comme ça, je peux partir.
Voilà.
C'est ça, en fait.
Okay. Oui. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai dit, bon, ok. Mais moi, bon, je l'ai pris à la légère. À la légère, j'ai dit, bon, ok, mais ben d'accord. Ben voilà, si tu veux divorcer. Et en fait, il a pris le pied du mur et voilà.
Mais au bout de combien d'années de mariage ?
Voilà. Ben, plus de 10 ans. Hein. Ben, en fait, 10 ans de mariage, on vivait déjà avant ensemble. Hein. C'était super cool. En fait, super cool, c'était bien. Et, mais en fait, ça a été vraiment... je crois que le Covid a... Parce que, comme normalement, il partait voir la famille en Afrique, et là, il n'a pas pu, pendant le Covid, ça a été catastrophique. Ça a été... mais je lui ai dit, non, il ne voulait pas comprendre. Voilà, non, il faut que je parte. Je lui ai dit, on est interdit de partir. Donc, non, il faut que je m'en aille, je peux pas. Et voilà, ça s'est envenimé sur certaines choses. Et puis, on termine une séparation. Ensuite, en même temps, j'ai le Covid en 2021. Je me dis à souvenir à tout. Et c'était pas facile. Maintenant, bon.
Pardonnez-moi de revenir sur votre séparation, Maryse, mais c'est que, si ce monsieur a décidé de partir parce que juste cette année-là, il pouvait pas aller voir sa famille dans son pays natal, c'est que c'était pas tellement solide. Il y avait des signes avant-cours dans votre couple qui faisaient
non, ça a commencé vraiment. Ça a commencé en fait pendant la période du Covid, au mois de mai, j'ai eu un accident. Je suis tombée et je sais pas si c'est parce que je pouvais plus rien faire parce que en fait je faisais tout à la maison et ça s'est détérioré en fait et puis ça s'est vraiment détérioré, je vous dis, c'est cette période là je ne pouvais pas trop assumer faire. Il y avait beaucoup de choses, hein. Vous savez, quand vous êtes dans un couple mixte, mari musulman, moi, je ne vais pas rentrer trop dans les religions, mais mon mari musulman, catholique, il y a des points... J'ai une éducation catholique, bon, avec le mariage, je me suis convertie, mais on garde toujours notre base aussi, hein. Et donc, lui, il a sa base, mais quand vous vivez...
C'est lui qui vous a demandé de vous convertir ou vous l'avez fait parce que sa religion vous intéressait et que finalement, vous l'avez adopté?
En fait, non, c'est moi, en premier. Hein. C'est pas lui, mais bon... Non, je dirais pas que c'est lui, hein. C'est moi.
D'accord, vous avez choisi.
En fait, je m'intéressais déjà. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés sur le fait. Je m'intéressais déjà depuis très longtemps, hein. Non, je m'intéressais
déjà. Sur la spiritualité, sur la foi, la religion.
Voilà,
cette quête spirituelle, en tout cas.
Oui, bien sûr. Je suis dans une famille très très pratiquante, donc c'est vrai que ça m'intéressait parce que après j'ai eu des amis qui étaient d'origine marocaine. En fait, des amis, filles comme hommes. Et puis on discutait. Et puis il y a certaines choses qui me convenaient. Et puis il y a certaines choses qui sont en corrélation. Peut-être que je vais parler, les gens vont me dire non, mais quand vous pratiquez une religion et que vous pratiquez, vous voyez qu'il y a des choses qui sont en corrélation.
Mais de toute façon, l'islam qui vient en troisième position dans l'arrivée des religions monothéistes reconnaît les évangiles et reconnaît
absolument.
La Torah, hein, de toute façon,
mais
comme les évangiles tirés de la Torah. Donc de toute façon, il y a des points communs.
Absolument. Dans l'islam, vous avez une partie qui est dans l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Vous avez la Torah qui est l'Ancien Testament. Mais dans l'islam, dans le Coran, on parle de Jésus, on parle de Marie, on parle de David, on parle de... Voilà quoi. Quand on a les bonnes...
Les bonnes informations.
Normale.
C'est ça que vous voulez
dire.
Donc c'est pas la
les
religion.
Les bonnes informations,
voilà.
Exactement.
Donc c'est pas la religion qui vous a séparé, est-ce que c'est la culture qui vous a un petit peu séparé ?
La culture, parce que non, catégorique, non, tu ne dis pas ce que j'ai à faire, c'est moi qui... Mais il ne m'a jamais fait ça avant, et puis pendant la période là, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et bon, ma fille n'est pas de lui, hein. J'ai eu une fille avant. Bon, on a quand même perdu, c'est des aléas de la vie.
Vous avez perdu vous avez fait une fausse couche?
Oui, avec lui.
Donc vous n'avez pas d'enfant avec lui?
Non, j'avais pas d'enfant, mais bon, il a connu ma fille assez petite, parce que ma fille a déjà, elle va sur les 30 ans, hein, c'est une grande, hein. Mm-hmm. Enfin, elle est étudiante, elle travaille en même temps, et du coup, donc, il a connu, voilà.
Petite. Donc c'était son beau-père.
Voilà,
en fait,
exactement, hein, oui, c'était son beau-père, il lui a payé l'école, ma fille, elle a fait des études, un peu, elle voulait faire en même temps ses études, elle était en LMDH, en licence master doctorat, et elle voulait faire une formation de diététicienne, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça, mais ça a été chamboulé par rapport au Covid, parce que toute l'année, hein, dès que le Covid a été déclaré, ça a commencé en décembre, quand il m'a dit, bon, il faut changer, il ne faut plus travailler de nuit. Moi, je ne voulais pas. Tu ne me dis pas de ne pas travailler de nuit.
Surtout que vous n'avez pas forcément le choix. Vous avez un employeur, donc...
Voilà, exactement. Vous avez tout compris, mais en lui faisant comprendre ça, non. Non, la culture, ça joue beaucoup, hein, vous savez, hein, ça joue beaucoup. On a beau dire, mais ça joue beaucoup. Et puis ça s'est détérioré, je dirais, décembre 2019, pas vraiment, mais ça a vraiment commencé lorsque j'ai eu mon accident en 2020. Ça a été moi-même, sur le coup, j'ai dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Et puis, voilà.
En fait, tant que vous n'étiez pas en situation de fragilité, tout se passait
exactement.
Bien. Mais dès que vous êtes devenu fragile, fragilisé parce que trop de travail, parce qu'évidemment, la situation mondiale, comme je le disais, c'est comme si il y avait eu un panneau monde en travaux. Donc, forcément, tout est en chantier. Donc, forcément, on ne va pas sur le chantier. C'est pour ça qu'on était tous chez nous. Donc, à partir du moment où le collectif est devenu fragilisé, et que vous l'avez été, de fait, hein, par votre profession, et aussi parce que vous étiez tombé juste avant. Alors là, il a démissionné, en fait. Il a jeté l'éponge, votre mari.
Absolument. Vous avez fait la traduction. Vous avez fait la conclusion.
Mais est-ce qu'il a tenté de revenir? Allez-y, pardon. Pardonnez-moi. Je vous écoute.
Oui, vous disiez. Je disais que exactement, vous avez fait la conclusion, c'est exactement ça. Et je n'avais pas, si j'en parlais avec une amie, je me dis, mais j'avais jamais fait la corrélation, j'avais jamais fait observer en fait que je faisais tout. Et juste dans cette période, quand j'ai eu mon accident au niveau du bras, et que là, il a vu que je n'arrivais pas à utiliser mon bras en 2020. J'ai vu qu'il a changé en fait, même pour dormir quoi. C'était comme si bon, tu es incapable en fait. Voilà, il m'avait même dit que bon, ben, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et moi, j'étais tellement motivée.
Vous n'aviez plus d'utilité.
Voilà, mais je crois que j'étais tellement toujours active. Je pense quand on est quelqu'un de toujours actif vis-à-vis d'un homme, et puis le jour que tout homme n'est pas comme ça, hein. Je ne généralise pas, mais je pense que j'étais toujours active à faire les courses, à faire ça, à organiser tout ce qui était, et le jour que je lui ai demandé de faire ci, de faire ça, ça convenait plus, quoi. Ça convenait plus parce qu'il faut savoir que souvent, je ne généralise toujours pas, mais moi je prends mon cas, en tant que, quand on est, moi je suis d'origine antillaise.
Oui.
Française, bien sûr.
Bah oui, les Antilles.
Bien sûr, voilà.
Guadeloupe.
J'entends des fois des Antillaises qui me font rire. Ah ben non, je suis Antillaise, je suis pas française. J'ai dit, mais vous êtes quoi? Mais les Antilles, c'est français, vous êtes une autre quoi. Donc des fois, ça me fait rire. Donc du coup, je disais
donc
que...
Donc vous venez d'où, de Martinique? Martinique ou Guadeloupe?
Je suis de la Guadeloupe parce que j'ai dit Guadeloupe par rapport à ma maman, mais mon papa, c'est vrai que, bon, quelques origines lointaines de la Martinique, non plus de ma maman, mais ma maman, elle est de la Guadeloupe, enfin, elle n'y est plus, elle n'est plus là, elle n'est plus de ce monde, hein, ni mon père non plus. Et voilà, ça a été subite. Bon, enfin bref. Et du coup, ma mère, comme elle est de la Guadeloupe, donc on dit toujours celui de la maman. Hein. Donc je dis la Guadeloupe. Et voilà quoi. Mais et lui, voilà, de l'Afrique. Mais je constate quand on vit, je faisais pas trop l'importance de ça parce que chez nous aux Antilles, bon, les femmes elles font, on a une éducation comme ça. Bon, on éduque aussi les hommes à faire la cuisine, à faire tout. Et moi, en fait, je lui disais, mais tu fais rien. Mais attends, tu ramènes l'argent, mais tu fais rien. Je dis, ben, en Afrique, c'est comme ça. L'homme, il ramène et puis la femme, elle fait tout. Hein. Je dis, ben non, moi, mes frères, mes neveux, on les apprend à faire à manger. Et pourtant, il me dit, ben non, nous, les mères, c'est les filles qu'on apprend. Mais c'est vrai que... Il y a une éducation à faire. Il y a, c'est l'éducation. Des fois, c'est pas la religion, c'est l'éducation. Beaucoup.
Oui. Après, c'est vrai que
vous avez rencontré plusieurs personnes de la même religion et puis qui n'ont pas la même façon de penser.
Bien sûr. Non, mais la religion n'a rien à voir là-dedans. Hein, de toute façon, c'est vraiment culturel.
Exactement.
Mais et puis c'est aussi structurel. Hein, ça dépend de la personne, hein, parce qu'il y a des gens d'Afrique du Nord qui sont pas comme ça, qui mettent pas les pieds sous la table. Hein, il doit y en avoir quelques-uns, j'imagine. Donc,
Mais
ce qui est étonnant, c'est que vous êtes quand même resté 10 ans avec lui. Donc, ça veut dire que vous, pendant ces 10 ans, vous vous êtes occupé du foyer, comme vous êtes en train de nous l'expliquer.
Plus de 10 ans. Et je ne faisais pas attention parce que j'ai été éduquée par mes grands-parents. Et vous savez, quand vous êtes éduquée par les grands-parents, vous avez déjà, sans être, comment dire, vous avez déjà la sagesse, hein, sans être, je veux dire, vous avez déjà la façon, on vous apprend, oui, c'est comme ça, il faut être avec votre mari, mais vous avez quand même une avancée, une ouverture sur le monde moderne.
Oui.
Donc même si les grands-parents vous apprennent ça, mais j'ai eu aussi l'éducation de mes parents, que voilà, on a l'éducation, mais j'étais plus éduquée par mes grands-parents jusqu'à 12 ans. Et après, bon, mes parents, ils ont pris relais, mais j'avais la base, la grosse base, c'était mes grands-parents. Donc, je me dis, je suis plus le chouchouter comme un enfant, quoi. Et je crois que je l'ai trop mis comme un enfant, que le jour que je pouvais plus être sa maman.
Oui, vous l'avez un petit peu.
Bon,
vous avez été.
Je vais chercher notre maman, quoi.
C'est ça. Vous avez été une femme maternante et il s'est retrouvé là-dedans et vous aussi sans doute. Hein, sinon, vous seriez
exactement,
un petit peu. Vous auriez mis les limites avant, oui, peut-être.
Oui. Ma fille, elle me dit que ça a été trop gentil, mais franchement, et des fois que je faisais des fois, ils me disent mais je peux pas aller faire ça, je peux pas aller faire les papiers, je vais le faire. Je vous jure, ça c'est du passé. Je parle, mais avant, c'est pas possible que j'ai pu faire pas mal de choses. Mais c'est comme ça.
Mais du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est même carrément, peut-être, j'imagine, c'est une question que je vous pose d'ailleurs, décevant quand il part comme ça, juste parce que vous êtes fragilisée. C'est-à-dire que là, on espère quand même que le couple, même s'il y en a un qui est, enfin, si vous êtes maternante et que lui est un peu plus se laisse faire, hein, bon, de toute façon, il y a beaucoup d'hommes, hein, quand même aussi comme ça, qui aiment bien qu'on s'occupe d'eux, hein. C'est quand même très décevant qu'il soit pas du tout à la hauteur au moment où vous êtes fragilisée et que vous avez besoin de lui.
Moi, je vous dis, c'est un peu, comment dire, je parle. Le problème, chaque année, il partait quelquefois deux fois en Afrique.
Oui.
Deux fois en Afrique. Et cette période, il n'a pas du tout pu partir. Je le voyais à la maison, il prenait le balai, c'est comme s'il était sur les nerfs. Et un jour, il passait le balai, ma fille lui dit « Mais non, mais ne passe pas, ça sert à rien et tout. Oh » Il a déclenché « Non, je veux pas. » En fait, je dis « Mais pourquoi ça sert à rien de s'énerver sur un balai, ça sert à rien. » Ça sert à rien. Et moi, c'était pendant la période du Covid. Je lui ai dit, mais j'en ai marre, je suis fatiguée, là. Arrête de te prendre la tête pour un balai. Le balai, voilà, quoi. Et voilà. Et donc, moi, je me suis dit, bon, tu vas pas te prendre la tête pour un balai, quoi. Et puis, je lui ai dit, mais il y a des choses qui arrivent plus. Je suis en train de travailler pendant la période du Covid. Il y a une famille tout entière qui est décédée parce qu'on avait dit à la mère, aux parents, de ne pas aller voir la dernière qui venait d'accoucher. Toute la famille est décédée. Quand j'entrais à la maison, que j'avais les larmes, j'avais ci, j'ai dit, mais ça sert à rien de se prendre la tête. Ça sert à rien.
Oui,
et donc, en fait, il fallait pas lui faire de remarques. Mais pourtant, j'ai pris ses comptes, comme on dit, j'étais aveugle pendant toutes ces années. Mais vous savez, quand vous aimez, vous êtes toujours aveugle. Hein,
oui, souvent en tout cas. Mais du coup, est-ce qu'il a essayé de revenir, ce monsieur, ensuite, après le Covid?
Eh bien, il a essayé de revenir, mais il n'est pas revenu du genre direct. Il a frappé, il m'a dit, je viens chercher mon courrier. Mais il a refrappé, mais moi, je n'ai pas ouvert.
Donc, oui, voilà. C'est ça. Parce qu'on sent quand même qu'il était plus de 10 ans ensemble. La période du Covid était quand même très particulière. On est l'un sur l'autre tout le temps. Il y a beaucoup de couples qui se sont découverts dans le bien et dans le moins bien. À ce moment-là, évidemment, tout a été exacerbé. Et peut-être que lui, bon, après, voilà, il a une culture qui n'est pas tout à fait la vôtre. Il se comporte pas tout à fait très bien. Mais c'est pas tellement étonnant qu'il soit revenu vers vous après, finalement.
Mais il est revenu, en fait, chercher le courrier. Après, pour les fêtes, bonne année, bon, j'envoyais les bonnes années. Pour les périodes du Ramadan. Et puis après, moi, je répondais plus parce que finalement, j'ai changé de numéro de téléphone. Et puis, je crois que c'est pour ça aussi. Voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes divorcée?
Aujourd'hui, pas encore, hein. Pas encore, c'est toujours une séparation parce que bon, il n'a pas encore pris. Moi, je suis allée pour faire les démarches, mais et pourtant, c'est lui qui a lancé la demande. Hein. C'est lui qui a lancé la demande. Et du coup, non, il n'a pas encore. Voilà.
Divorce à l'amiable ou pas, quand même? Parce que ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 2 ans? 3 ans?
Non, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans.
Ah oui, donc...
Ça fait 4 ans et au niveau du... Ils m'ont dit qu'après 3 ans, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, ben ça retourne à zéro en fait. Il faut refaire une demande, quoi.
D'accord, donc vous n'êtes pas pressé ni l'un ni l'autre.
C'est un peu comme ça, je crois. Comment?
Vous n'êtes pas pressé ni l'un ni l'autre. Finalement.
Je ne suis pas pressée. Je suis pas pressée parce que il attend que je paye le marché. Moi, c'est lui qui m'a demandé, donc il n'a qu'à payer.
D'accord. Bon, en tout cas,
non, c'est... mais parce que le divorce, c'est lui qui a demandé, donc c'est lui qui doit payer. Donc voilà, il faut se dire que le divorce, ça revient plus cher que le mariage, hein, finalement.
D'accord. Bon, bah, il n'y a pas de sujet, finalement. C'est ça.
De quoi?
Il n'y a pas de sujet pour vous. Quand ça se fera, c'est ça?
C'est-à-dire que... C'est moi qui je sais pas que je valide pas. Je suis déjà allée au tribunal, mais ils m'ont dit, en fait, au niveau de l'accueil, c'est lui qui a lancé la demande. Donc, si vous faites, vous serez obligé de tout payer.
Ah oui, mais d'accord. Il n'y a pas de raison.
Vous comprenez, c'est une stratégie. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est lui qui l'a lancé, c'est lui qui doit valider pour payer.
Je comprends. Vous avez refait votre vie, Maryse, aujourd'hui?
Pas encore, je crois que... Pourtant, vous dites que peut-être que je n'ai pas encore tourné la page. Hein.
Ah non, pas du tout. Je pensais... Non, j'ai l'impression que vous avez tourné la page. Depuis tout à l'heure, vous êtes gaie, vous êtes un bain de bonne humeur, de sourire, d'énergie, de dynamisme. Ça nous fait du bien. Donc, je pense que vous avez tourné la page, il me semble.
Oui, j'ai tourné la page, ce qui veut dire que je suis très bien seule. Voilà. Ah
bah, pourquoi pas? En plus, comme ça, ça vous permet de vous reposer avant de remettre ce projet de vie en route. Parce que c'est quand même un projet de vie dans lequel il faut s'investir, le couple. Hein. Donc là, si vous êtes encore fatigué et que vous êtes en plus en reconversion, pourquoi pas? Chaque chose dans son temps.
Exactement. C'est exactement. J'essaie de prendre du temps pour moi. Enfin... au fur et à mesure, et puis je me dis quand tout sera... voilà, le travail est là, mais je suis en pleine pour faire une formation, pour faire une formation dans technicienne d'information médicale, voilà, pour sortir un petit peu, parce que la réa, c'est très intense.
Oui, bah, et puis c'est lourd psychologiquement. Et puis c'est lourd psychologiquement surtout. Hein. Mais la charge mentale est forte, donc. Donc à un moment donné, faut passer le flambeau aussi, hein, c'est ça.
Exactement. On va laisser ça aux petites jeunes qui viennent d'être diplômées. On va leur donner savoir ce que c'est, bouger, courir à gauche, à droite.
Et puis vous le disiez, voilà. Vous avez besoin d'être assise vous maintenant un petit peu plus aussi, hein.
Un petit peu plus, voilà.
C'est le cas de le dire aussi, plus assise, plus posée.
Hein, exactement.
C'est ça,
exactement.
Plus posée, y compris dans votre vie privée, peut-être avec une répartition des tâches un peu plus juste. Pour le prochain.
Absolument, absolument. Mais non, c'est vrai, pendant les 2021-2022, c'était jusqu'à 2022, et puis là, ça va, on se réoxygène, et puis on se réhabilite certaines disponibilités, certaines libertés aussi. Pas n'importe quelle liberté, mais je veux dire, aujourd'hui j'ai envie de me lever, aujourd'hui j'ai envie de partir pour aller à telle heure, être quelque part.
Et vous le
voilà,
faites,
aujourd'hui
vous
j'ai envie d'aller faire des cours, je fais, c'est pas obligatoirement. Oui, il faut remplir le réfrigérateur et tout.
Merci beaucoup, Maryse. Merci beaucoup de ce bain de fraîcheur, de vous avoir entendu en ouverture de cette libre antenne de ce samedi. Un grand merci à vous. À bientôt.
Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Notez aussi que vous pouvez retrouver Sonia Mabrouk pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos tous les dimanches de 10h à 11h.